Un phénomène quotidien. Vieux comme l'humanité, omniprésent. Vous mentez.
Non.
Nous mentons tous.
We gotta keep our country safe.
Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu.
These allegations are false.
L'homme est un singe menteur.
Et il n'est pas le seul à maîtriser l'art de la tromperie.
Le chat vous regarde de haut, le chien lève les yeux vers vous et le cochon vous regarde droit dans les yeux.
Le mensonge semble être une constante dans la nature. Les enfants savent d'ailleurs très tôt s'arranger avec la vérité.
Il est très important d'apprendre par soi-même à mentir et à comprendre le mensonge.
Car il s'agit aussi de démasquer les Pinocchio qui nous entourent.
L'effet Pinocchio est le graal du mensonge.
Des caméras infrarouges permettent de mettre en évidence et de mesurer le mensonge. Les mystificateurs sont trahis par certains signaux corporels irrépressibles. Et les mouvements des yeux peuvent révéler le degré de sincérité de celui qui parle. Nous vivons à l'ère de la post-vérité. Les fake news se propagent à toute allure sur les réseaux sociaux. À chacun sa vérité, émise sans filtre et sans vérification. La frontière entre réalité et mensonge est de plus en plus ténue. Le plus célèbre diffuseur de fake news sur Internet, le président Donald Trump, en publie pratiquement tous les jours.
Dans le cas de Trump, il y a quelque chose de totalement fascinant, c'est qu'il assume totalement. Je sais bien que il refuse de faire appel à la moindre expertise, au moindre système de vérification extérieure par les archives, les faits, les images, etc. Et il dit « je sais bien que » parce que je le sens.
La politique est un milieu où le mensonge est de mise et la sincérité déplacée.
J'ai démenti, je continue à démentir, à nier.
I did not have sexual relations with that woman.
Tous des menteurs.
Le citoyen lambda a beau condamner ses comportements, il ne fait guère mieux. Le voici, ce monsieur tout le monde. Appelons-le Mueller. Ce n'est pas ce qu'on appelle un modèle d'honnêteté. Il esquive la vérité au quotidien.
Chérie, tu es resplendissante.
Chérie, tu m'aides à fermer ma robe ?
Bien sûr. C'est ravissant.
Je sais, je suis un peu serrée dedans.
Mais non, elle te va à merveille.
Mais contrairement aux mensonges des politiciens, les compliments un peu appuyés de M. Mueller ne relèvent pas d'une malhonnêteté délibérée.
Alors, c'est bon ?
C'est divin, merci.
Si quelqu'un sort de chez le coiffeur et vous demande comment vous trouvez sa coupe, même si intérieurement vous pensez qu'elle n'est pas terrible, vous allez lui dire qu'elle lui va bien. C'est un mensonge de courtoisie, pas un vrai mensonge. Vous voulez simplement éviter de blesser votre ami.
On parle alors de pieux mensonges ou de mensonges altruistes. Une pratique que nous impose aussi la vie en société.
Bonjour voisin, ça va ?
Tout va bien, bonne journée.
Une certaine dose d'hypocrisie est nécessaire à un vivre ensemble harmonieux.
Bonjour patron, je suis coincé dans un embouteillage. J'appelle pour prévenir que je serai en retard. À tout à l'heure.
Ciao.
Mais quand le mensonge s'apparente à une entreprise de dissimulation, la ligne jaune est franchie.
Mueller, où sont les chiffres trimestriels ?
Je suis dessus.
Il me les faut en fin de semaine.
Si M. Mueller cache la vérité à son patron, c'est par pur intérêt. Il veut s'éviter des ennuis, quitte à mettre son chef en difficulté. Tous cela n'est pas un hasard. Dans le cerveau de M. Müller, le système limbique est en éveil, en particulier son complexe amygdalien. En temps normal, c'est lui qui suscite le sentiment de culpabilité. Mais une étude britannique a montré que cette zone du cerveau s'accoutumait à la falsification de la vérité. Plus le sujet ment, moins il a mauvaise conscience.
On pourrait peut-être dire que nous sommes faits pour le mensonge, puisque nous avons le langage articulé qui est fait pour ça. Et le langage est fait pour raconter des carabistouilles. Je veux dire, il est fait pour raconter des histoires imaginaires, pour tromper l'autre, pour obtenir quelque chose.
Mesdames et messieurs, je vous présente Karl May.
Le mensonge est un comportement intemporel. Prenons un cas bien connu en Allemagne, celui de l'écrivain Karl May. À la fin du 19e siècle, cette gloire de la littérature populaire est connue pour ses romans d'aventure situés au Far West ou au Proche-Orient. Il s'identifie à ses héros qui sont, selon lui, bien réels. Karl May prétend relater ses propres aventures. Il aurait lui-même combattu les Amérindiens et sillonné l'Empire ottoman. Ces romans vont façonner la représentation du Proche-Orient et de l'Ouest américain dans l'imaginaire populaire. Au XIXe siècle, il est l'auteur de langue allemande le plus lu. Personne ne remet en question sa sincérité.
J'entends un bruit et je vois surgir un grizzly, mais grand comme ça. Je vais arriver comme ça devant l'empereur allemand et lui dire « Majesté !»
J'avais une question. Ce Winnetou, vous l'avez vraiment rencontré ?
Mais bien évidemment.
Ce sont des journalistes qui révéleront le poteau rose. On sait aujourd'hui que Karl May présentait le tableau clinique d'un mythomane. Mentir était pour lui un besoin pathologique, dû au désir d'attirer l'attention. Pourtant, jusqu'à la fin de ses jours, le romancier n'en démordra pas. Tous ses récits sont véridiques. Le mensonge semble donc être un phénomène naturel. Certains spécialistes de l'évolution pensent qu'il a même été un puissant moteur dans le développement de l'intelligence humaine.
L'homme est un singe menteur. Et le fait de pouvoir raconter des histoires fausses, non pas seulement nous dissimuler derrière des feuilles, mais raconter des histoires fausses, nous a aidé à tromper les autres, mais il nous a aidé à en croire en des dieux, en la tribu, à combattre ensemble. Donc ça a été certainement le mensonge, a été un facteur qui nous a beaucoup aidé dans l'évolution.
D'arriver à comprendre que les gens agissent non pas selon l'état réel du monde, mais en fonction de l'idée qu'ils s'en font. Et qu'on peut manipuler cette représentation de façon ciblée.
La prise de conscience qu'on peut manipuler l'état d'esprit de quelqu'un d'autre et qu'on a le pouvoir d'influencer ses pensées et sa vision des choses à partir de faux éléments ne vient que plus tard. Tant qu'ils ne savent pas faire ça, les enfants sont encore très innocents.
C'est un fait. Tout le monde ment. Quand on grandit dans une société où le mensonge est une réalité, il est très important d'apprendre à mentir par soi-même et à comprendre ce comportement. Ne serait-ce que pour ne pas être à la merci des menteurs.
Dans ces cas, les menteurs s'efforcent de dissimuler leurs ressentis immédiats et authentiques. La joie, la colère, la tristesse, le dégoût, le mépris, la peur et la surprise sont les sept émotions primaires universelles qui s'expriment de façon identique chez tous les êtres humains. Pour ce faire, 26 muscles du visage entrent en interaction. Lorsque nous éprouvons de la joie, par exemple, ils réagissent en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle une micro-expression. Elle ne peut pas être feinte, mais elle ne dure qu'un très bref instant. Immédiatement après, le menteur reprend le contrôle de ses traits. Le visage peut toutefois révéler bien plus. Elio Gomez pose une série de questions. Le sujet décide s'il veut ou non dire la vérité. Ici, il ment, de toute évidence. La température enregistrée au niveau de son nez et de son majeur, en vert et en bleu, diminue à ce moment précis. Et ce n'est qu'un indice parmi d'autres. Mentir suppose une performance intellectuelle complexe qui fait tourner le cerveau à plein régime. L'afflux de sang dans le lobe frontal fait monter la température. Dans la partie avant du lobe frontal, les neurones miroirs s'activent. Ce sont eux qui nous permettent de comprendre l'état émotionnel d'autrui. Toute cette consommation d'énergie entraîne un échauffement des joues. Les détecteurs de mensonges sont utilisés depuis plusieurs décennies pour repérer les menteurs à partir de la mesure des variables physiologiques. Certains services secrets s'en servent pour démasquer des agents doubles ou des auteurs d'infractions. Identifier les malfaiteurs sur la base de leurs caractéristiques physiques, l'idée ne date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, Cesare Lombroso, un médecin de Turin, pense que l'on peut identifier les criminels nés à partir de certains stigmates physiques. Il prend aussi l'attention des suspects qu'il interroge. Plus tard, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung emploie un galvanomètre pour mesurer la conductibilité de la peau lorsque le sujet transpire. Puis, les travaux du psychologue Vittorio Benussi vont contribuer à la mise au point du polygraphe. Sa méthode consiste à enregistrer les variations du rythme respiratoire et cardiaque qui fluctue selon lui avec le stress induit par le mensonge. À ce jour pourtant, aucun détecteur de mensonges ne fournit de preuves irréfutables. Malgré le risque de se faire prendre, les politiciens continuent de mentir comme des arracheurs de dents. Donald Trump est sans aucun doute le champion toute catégorie de l'affabulation.
So help me God.
Un prince du mensonge hors du commun.
It's the largest tax cut in the history of our country, and reform, but tax cut.
Certains journaux, comme le Washington Post, recensent les contre-vérités proférées par le président américain. On en dénombrerait plus de 8000 depuis son entrée en fonction, de quoi pulvériser tous les records de ses prédécesseurs. Mais Trump n'est pas le seul à mentir.
Il y a indéniablement une corrélation entre le mensonge et le pouvoir. Tout le monde ment au quotidien, mais le politicien se prête bien plus souvent à ce jeu que le commun des mortels. De nombreuses études ont établi que plus une personne détient de pouvoir, et plus elle va avoir tendance à mentir, en pensant être dans son bon droit.
Le mensonge comme technique de dissimulation ne date pas d'hier. À la Renaissance déjà, la politique s'enveloppe de secrets. Nul ne doit savoir ce qui se trame dans les cercles du pouvoir. L'influent Nicolas Machiavel, théoricien de la politique, condamne officiellement le mensonge qu'il juge immoral. Mais indirectement, il incite les gouvernants de l'époque à y recourir.
Donc Machiavel ne conseille pas au prince de mentir, puisque le mentir ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif. Or, Machiavel, dans son opuscule politique Le Prince, cherche à donner des conseils pour que le prince assoie au maximum, au mieux, son pouvoir. Ce qu'il lui conseille donc, c'est de cacher en partie la vérité, car pour lui, le secret est la condition même du succès de l'action politique.